Imaginons une usine ultra moderne. Les chaînes de montage sont entièrement robotisées, t'as une intelligence artificielle qui optimise chaque milliseconde, et la production sort à un rythme complètement effréné.
Ouais, le rêve industriel parfait, quoi.
C'est ça, avec une précision millimétrique, tout est parfait. Sauf que, au beau milieu de cette usine, il y a des milliers d'humains alignés sur des bancs.
Ah, des humains qui font quoi, du coup?
Ben, on leur demande de tourner des manivelles en plastique. Des trucs totalement déconnectés des machines, juste, enfin, simplement pour pouvoir justifier le fait de leur verser un salaire à la fin du mois.
C'est fou comme image. Mais en fait, ça illustre super bien une faille systémique profonde. C'est, on pourrait appeler ça de l'obsolescence programmée, mais pas pour nos téléphones ou nos frigos, tu vois. C'est l'obsolescence de notre organisation sociétale tout entière.
Et c'est justement le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. On plonge en profondeur dans les travaux du prospectiviste Thierry Curti.
Une vraie plongée, oui, parce que la matière est dense.
Ah oui, je suis complètement fascinée par ses sources. On a épluché ses articles, des transcriptions de ses vidéos, et surtout les données de son outil, un truc incroyable qui s'appelle le simulateur de transition sociétale.
Un outil qui modélise carrément notre avenir, ouais.
Voilà. Et la thèse centrale qu'il avance, c'est que la fin imminente du modèle fondé sur le travail salarié de masse, bah, c'est pas une crise à redouter. C'est une transition inévitable.
C'est même vital, selon lui.
Absolument. Votre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi notre acharnement collectif à préserver l'emploi classique, le fameux plein emploi, pourrait en fait être la cause principale de nos crises écologiques et économiques actuelles.
Et comment, paradoxalement, déconnecter la survie matérielle du salaire pourrait littéralement sauver la planète.
Alors, petite pause avant de démarrer. Je dois faire une précision super importante pour ceux qui nous écoutent. Les modèles de Curti abordent des questions politiquement très sensibles. On va parler de répartition des richesses, de fiscalité, d'inégalité de classe.
Des sujets qui fâchent, en général.
C'est clair. Et ces propositions bousculent autant les dogmes de la gauche que ceux de la droite. Donc on le dit très clairement, notre but ici n'est pas de prendre parti. On ne valide aucune idéologie.
On est d'accord. On aborde ça comme un problème d'ingénierie sociale, en fait. De manière neutre, l'auteur identifie pourquoi le moteur du XXe siècle est en train de serrer, et on va juste regarder comment ces nouvelles pièces pourraient faire tourner la machine différemment.
Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le paradoxe actuel, il est quand même flagrant. On n'a jamais produit autant de richesses matérielles, et pourtant les niveaux de dette des États et la précarité, bah, ça explose.
Ouais, c'est le grand écart.
Si nos usines tournent à plein régime, pourquoi le système financier semble toujours au bord du gouffre?
Ben, la réponse de Curti, elle se trouve dans le découplage entre la création de richesses et le travail humain. Historiquement, pour produire plus, il fallait embaucher plus de bras. C'était mathématique.
Logique, oui.
Mais depuis les années 70, avec l'informatique, la robotique et maintenant l'IA, la courbe de productivité des machines s'est littéralement envolée. Pendant que celle du travail humain a stagné.
Donc on n'a plus besoin d'autant de monde pour produire.
Exactement. Le travail humain direct, qu'il soit physique ou même intellectuel répétitif, bah, c'est devenu le moyen le plus lent et le plus cher de produire de la richesse de masse.
Mais attends, si la machine produit plus efficacement, la logique voudrait qu'on travaille moins, non ?
Ah, en théorie, oui.
Mais là, on a l'impression d'une course effrénée pour créer de l'activité à tout prix, même artificielle.
C'est le fameux piège du travail. Le modèle du XXe siècle, il repose sur un triptyque hyper rigide. La machine produit, ok, mais il faut bien distribuer du pouvoir d'achat pour que les gens consomment cette production.
Sinon, tout s'arrête.
Voilà. Et le seul canal légitime pour distribuer ce revenu, bah, politiquement parlant, c'est l'emploi. Donc, vu que la machine a remplacé l'humain dans la production vraiment utile, les États se mettent à subventionner massivement des emplois dont l'utilité économique réelle est proche de zéro.
Ah, ce que David Graeber appelait les « bullshit jobs », pardon pour l'anglicisme.
C'est exactement ça. La prolifération des tâches de contrôle, les strates administratives absurdes. En fait, l'économie ne crée plus des emplois pour produire des choses. Elle produit des choses pour justifier des emplois.
Bon, décortiquons ça avec une analogie tirée des sources, parce que je la trouve frappante. C'est un peu comme un boulanger, tu vois, qui irait emprunter de l'argent à la banque.
D'accord.
Il prend cet argent, il le donne à ses clients pour qu'ils puissent lui acheter son propre pain. Et l'année suivante, ben, il doit emprunter encore plus pour payer les intérêts de l'année d'avant. C'est une bouclée sans fin.
Et c'est la définition même de notre dette souveraine aujourd'hui. Pour maintenir cette fiction du plein emploi, la dette de pays comme la France, elle double tous les 10 à 15 ans depuis les années 80.
juste pour financer ce système obsolète.
Ouais. L'État s'endette plus pour construire des hôpitaux ou des ponts, enfin pas majoritairement. Il s'endette pour faire tourner ta boulangerie artificielle, pour verser des aides conditionnées au retour à l'emploi, baisser les charges des entreprises pour maintenir des postes précaires.
C'est dingue. Pourtant, aujourd'hui, le grand mot d'ordre politique, c'est la réindustrialisation. On veut ramener les usines chez nous pour recréer des millions d'emplois.
Sauf que les sources sont formelles. Pour les pays avancés, c'est un mythe total.
Vraiment ? Un mythe ?
Mathématiquement, oui. L'emploi industriel de masse, ça demande de vendre une production de masse. Donc, à des prix très bas. Si on veut produire des micro-ondes à 150 euros, ici, on est en concurrence directe avec les pays émergents.
Et on ne peut pas gagner sur les prix contre eux.
Sauf en utilisant la seule variable d'ajustement possible, écraser le coût du travail local. Donc, la réindustrialisation de masse, ça implique littéralement l'appauvrissement de sa propre population.
Ah oui, c'est le nivellement par le bas.
Ce qui est fascinant ici, c'est de voir qu'on bloque l'évolution. L'humanité est passée du secteur primaire au secondaire, puis au tertiaire. Et là, on devrait basculer vers le secteur quaternaire.
Le quaternaire, c'est-à-dire ?
Tout ce qui est basé sur l'humain interactif, le soin, la culture, la réparation du vivant. Mais on bloque ce passage par pure idéologie. On veut à tout prix que l'humain garde un statut de machine-outil.
C'est absurde. Mais ça soulève un point encore plus grave, je trouve. Si on surproduit uniquement pour maintenir cette illusion de l'emploi, quel est l'impact de cette frénésie sur la planète ?
Ben, c'est la facture physique de ce succès du XXe siècle. La crise écologique, les documents le disent bien, c'est pas une punition morale. C'est le résultat direct de cette équation macroéconomique.
Donc si je comprends bien, l'accord de Paris sur le climat y partait perdant dès le début.
Complètement. L'accord de Paris demandait l'impossible, réduire les émissions, tout en préservant le système productif actuel.
C'est contradictoire, en effet.
Toute vraie action écologique, ça détruit des emplois. C'est inévitable. L'industrie automobile, qui passe à l'électrique, ça supprime la sous-traitance des moteurs thermiques. Les restrictions sur les polluants, comme les PFS, ça ferme des usines.
On ne peut pas demander à quelqu'un de sauver le climat si ça signifie perdre son salaire et se retrouver à la rue.
Exactement. C'est la survie immédiate contre la survie à long terme.
Mais attends, n'est-ce pas justement à ça que sert l'économie circulaire ? Je veux dire, recycler, faire durer les objets, fermer la boucle ?
Alors, l'auteur réfute cette idée comme étant suffisante. L'économie circulaire, elle se contente de gérer les déchets, de faire, disons, moins mal. Mais dans la nature, le concept de déchets n'existe pas.
Oui. La sortie d'un système et l'entrée d'un autre.
Voilà. Et c'est là qu'intervient le concept d'économie symbiotique. Le but, c'est de concevoir des processus où chaque sortie est une ressource. Par exemple, transformer le carbone de l'atmosphère, le capter et en faire une matière première.
Ah, pour fabriquer des matériaux de construction, des polymères.
C'est ça. L'objectif n'est plus de juste réduire les émissions, ce qui détruit des emplois classiques, mais de capter et d'inverser le réchauffement en créant de la valeur.
Ok, donc si l'ancien modèle détruit la planète, à quoi ressemble concrètement la solution systémique ? C'est là qu'on revient au fameux simulateur de transition, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Le simulateur se base sur 8 leviers interdépendants. L'automatisation, le revenu garanti, la circularité, l'économie contributive, etc.
Et qu'est-ce qu'il montre, ce simulateur ?
Il montre qu'une société post-travail devient fonctionnelle à des seuils très précis. Quand l'indice de stabilité sociale atteint 68 et que l'indice de misère abolie touche 79.
Des chiffres précis, ça veut dire quoi, dans les faits ?
Ça veut dire que quand la survie n'est plus liée au salariat, le système se stabilise. La peur matérielle disparaît.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on pourrait croire que déconnecter le revenu du travail, ça mènerait à une société d'inactivité totale. Une sorte de léthargie de masse, quoi. Tout le monde sur son canapé.
Ouais, la fameuse objection du droit à la paresse. Mais si l'on relie ça à la situation globale, le simulateur prouve le contraire. La peur de la misère n'est pas un moteur d'innovation, c'est un frein. En abolissant cette peur, on libère du temps humain pour résoudre des problèmes complexes.
L'intelligence distribuée, c'est ça ?
Oui. Les structures hiérarchiques du XXe siècle ne peuvent plus gérer la complexité d'aujourd'hui. Mais des millions d'individus sécurisés matériellement, qui deviennent des humains contributifs, dans ce fameux secteur quaternaire, le soin, la restauration écologique, là, ça fonctionne.
Donc la théorie est super séduisante, mais, et c'est la question inévitable, comment on finance tout ça ? Si le travail salarié n'est plus le pilier central qui paie des impôts, on trouve l'argent où ?
C'est le cœur du réacteur. Le modèle repose sur 3 piliers financiers. Le premier, c'est un revenu garanti tripartite.
Tripartite donc en 3 parties.
Voilà. Un revenu universel en monnaie locale fondante.
Fondante, ça veut dire qu'elle perd de la valeur avec le temps.
Exactement. Pour forcer la circulation et empêcher la thésaurisation dans l'économie de proximité. 2. Un revenu de base géré par un impôt négatif.
Ah, l'impôt négatif. En gros, si tu donnes en dessous d'un certain seuil, l'État ne te taxe pas, il te verse la différence. Plus de paperasse, plus de dossiers complexes.
C'est ça, automatique. Et 3. Une rémunération contributive pour ceux qui s'engagent dans des actions d'utilité publique.
D'accord. Et le deuxième pilier ?
C'est l'AMI, l'action mutuelle d'investissement. Ça permet aux citoyens d'investir collectivement via des quotes-parts dans des projets écologiques. Sans la spéculation financière de Wall Street, tu vois. C'est du capital diffusé.
Ok, mais l'État dans tout ça ?
Sa fiscalité, c'est le troisième pilier.
Ouais.
Taxer le travail aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Il faut taxer les externalités négatives et surtout le niveau de vie réel.
Ça me rappelle l'anecdote historique dans les sources. Au 19e siècle, on taxait les portes et les fenêtres.
Ah oui, l'impôt sur les portes et fenêtres ?
Ouais. Et du coup, les gens peignaient des fausses fenêtres ou partageaient des escaliers pour payer moins. Mais aujourd'hui, la richesse moderne, elle est cachée dans des paradis fiscaux. Comment on taxe ça ? On parle beaucoup de la taxe Zucman en ce moment.
Cela soulève une question importante. La taxe Zucman, dans le modèle de Kurdi, elle est vue comme une micro-solution partielle, presque trop complexe à appliquer parce qu'il faut traquer des flux financiers invisibles.
Des bataillons d'avocats pour cacher l'argent.
Voilà. Ce que propose Kurdi, c'est un impôt forfaitaire basé sur le niveau de vie visible. T'as un jet privé, un chauffeur, un château, tu paies sur l'empreinte physique de ce luxe. Impossible de cacher un jet privé.
Et il couple ça avec un coefficient d'inégalité, c'est ça ?
Oui. Plus les ultra-riches ont un comportement pro-social ou écologique, genre s'ils investissent dans l'AMU, moins ils payent d'impôts sur leur train de vie.
C'est du génie. Et pour l'impôt sur le revenu classique ?
Il est plafonné à 10%.
Seulement 10% ?
Oui. Parce que si l'impôt n'est que de 10%, mettre en place des montages financiers d'évasion fiscale dans des îles lointaines, bah, ça coûte plus cher que ce que ça rapporte.
Ah, l'évasion fiscale devient mathématiquement absurde. C'est brillant. Bon, cette restructuration interne de nos pays, elle va inévitablement modifier les équilibres de pouvoir au niveau mondial.
Ah, la géopolitique va être complètement bouleversée.
Quelles sont les nouvelles armes stratégiques du 21e siècle dans ce modèle ?
L'eau. L'eau remplace le pétrole comme ressource stratégique ultime.
Parce qu'avec le climat, on a des zones inondées et des zones en sécheresse totale.
Exactement. Le modèle prévoit la nécessité de réseaux de transport bidirectionnels mondiaux. En gros, des pipelines géants pour transférer l'eau des zones d'excès vers les zones arides.
Des pipelines, mais attends, ça demande une ingénierie de pointe.
Et devine qui possède cette ingénierie ?
L'industrie fossile.
Voilà. L'industrie du pétrole ne doit pas être détruite. Elle a le savoir-faire massif pour forer, capter, compresser et transporter des fluides sur des milliers de kilomètres. On réoriente cette industrie vers l'eau et vers la captation du carbone atmosphérique.
C'est fou, le problème d'hier devient l'outil de réparation de demain. Et pour les pays du Sud ?
La transition leur permet de faire un saut technologique. Ils n'ont pas besoin de passer par notre ère industrielle destructrice. Ils passent directement à l'économie du savoir et de la régénération.
C'est un peu comme les télécoms en Afrique, non ? Ils n'ont pas tiré des lignes de cuivre partout. Ils sont passés directement au réseau mobile.
C'est la métaphore parfaite. Mais pour que ça marche, le Nord doit investir massivement dans le Sud.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Ça veut dire que la justice climatique envers les pays du Sud, bah, c'est pas de la charité, c'est de l'ingénierie géopolitique pure.
Le Nord a un besoin vital d'élargir l'assiette économique mondiale pour stabiliser la planète. La prospérité, elle ne viendra plus de l'épuisement des ressources, mais de leur régénération. Les rendements économiques ont vraiment changé de camp.
Quelle exploration ! Pour résumer rapidement ce qu'on vient de voir, la fin du salariat de masse n'est pas une catastrophe. C'est une évolution logique, une étape nécessaire pour échapper à la destruction écologique et à l'effondrement par la dette.
C'est un changement de logiciel, oui.
Ça nous permet, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent, de reconsidérer la véritable valeur de nos contributions quotidiennes, bien au-delà de la simple fiche de paie.
Ça redonne du sens à ce qu'on fait tous les jours, en dehors du cadre strictement professionnel.
Absolument. Et pour clôturer, ça m'amène à une réflexion très ouverte, un peu provocatrice peut-être.
Je t'écoute.
Si l'intelligence artificielle et l'automatisation nous libèrent enfin du travail contraint, comme toutes ces sources le démontrent, est-ce que le plus grand défi de l'humanité au XXIe siècle, ce ne sera pas simplement d'apprendre à être humain ?
Vaste question.
D'apprendre à exister sans qu'un titre sur une carte de visite ou un poste ne définisse la valeur de notre présence sur Terre. Ça donne vraiment matière à réfléchir.